Lizzie présente N'oubliez jamais de Michel Bussy, lu par Julien Bochet. À Arthur, 18 ans demain. Vous croisez au bord d'une falaise une jolie fille. Ne lui tendez pas la main. On pourrait croire que vous l'avez poussée. Gendarmerie nationale, brigade territoriale de proximité d'Étretat, Seine-Maritime, le 13 juillet 2014. De Monsieur le lieutenant Bertrand Donadieu, à destination de Monsieur Gérard Calmette, directeur de l'unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes, UGIVC, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, IRCGN, Rosny-sous-Bois. Monsieur le directeur, dans la nuit du 12 juillet 2014, vers 2h45, en amont du lieu-dit de la Valeuse des Tigues, 3 km à l'ouest de la commune d'Yport, un pan de falaise d'environ 45 000 mètres cubes s'est effondré. Ce type d'éboulement n'est pas rare sur notre côte. Les secours parvenus sur place à peine une heure plus tard ont pu établir avec certitude que l'accident n'a fait aucune victime. Cependant, et c'est ce qui motive ce courrier, si aucun corps de promeneur n'a été trouvé dans les décombres, les secouristes ont été confrontés à une étrange découverte. Les os de 3 squelettes gisaient parmi les blocs de craie dispersés sur la plage. Les forces de gendarmerie dépêchées sur les lieux n'ont retrouvé aucun vêtement à proximité de ces ossements, ni aucun autre effet personnel permettant de les identifier. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit de spéléologues piégés dans la falaise, le relief karstique de ces côtes crayeuses étant un terrain de jeu fréquent pour les amateurs de randonnée souterraine. Cependant, aucune disparition de spéléologues ne nous a été signalée ces derniers mois, ni même ces dernières années. Les squelettes sont peut-être plus anciens encore, mais autant qu'on puisse les analyser sans matériel adéquat, ils ne le paraissent pas. Je tiens dès à présent à vous préciser que les os ont été dispersés sur environ 40 mètres de plage lors de l'effondrement. La brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire, mandatée par le colonel Bredin, a procédé au relevé des différentes parties des squelettes. Leur première analyse confirme la nôtre. Tous les os ne paraissent pas avoir atteint le même niveau de décomposition, comme si, aussi surprenant que cela puisse paraître, les individus avaient trouvé la mort dans cette cavité de la falaise à des dates différentes, sans doute à plusieurs années d'écart. La cause de leur décès nous est tout autant inconnue. L'observation superficielle des os et des crânes ne révèle aucun coup mortel ayant pu entraîner leur mort. Sans le moindre indice probant ni point de départ pour orienter l'enquête, il nous est impossible de nous lancer sur une quelconque piste d'identification ante ou post-mortem. Les questions demeurent donc ouvertes. Qui sont ces 3 individus? Quand sont-ils morts? Quelle est la cause de leur décès? Il va sans dire que cette découverte excite beaucoup la curiosité des habitants de la région, déjà touchés ces derniers mois par une actualité macabre, cependant a priori sans rapport avec l'exhumation de ces 3 corps inconnus. C'est pourquoi, monsieur le directeur, même si je suis conscient du volume d'affaires plus urgente dont vous avez la responsabilité, et de la peine des familles qui attendent l'identification formelle de proches récemment décédés, je me permets d'insister auprès de vous pour qu'à titre exceptionnel, vos services puissent traiter ce dossier de façon prioritaire, afin de procéder avec la plus grande diligence à l'identification de ces 3 squelettes. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Lieutenant Bertrand Donadieu, brigade territoriale de proximité d'Étretat. 5 mois plus tôt, le 19 février 2014.
Attention, Jamal, l'herbe va être glissante sur la falaise.
André Josviak, le patron de la sirène, s'en voulut aussitôt d'avoir prononcé ses conseils de prudence. Il avait enfilé un trench coat et se tenait devant la porte de son hôtel-restaurant. Le mercure dans le thermomètre accroché au-dessus du menu peinait à franchir la ligne bleue marquant le zéro. Presque pas de vent. La girouette fixée à l'une des poutres de la façade, un voilier en fer forgé, semblait gelée par la nuit. André Josviak observa le jour se lever sur la plage face à lui. la légère couche de glace sur les voitures garées devant le casino, les galets serrés les uns contre les autres comme des œufs grelottants qu'un rapace géant aurait abandonnés, le soleil mal réveillé qui se hissait péniblement au-dessus de la mer après la falaise morte en Picardie, à 100 km plein est. Jamal s'éloignait à petite foulée. André le vit passer devant le casino et attaquer la montée de la rue Jean-Élie. L'hôtelier souffla dans ses mains pour les réchauffer. Il fallait bien servir le petit déjeuner aux rares clients qui passaient leurs vacances d'hiver face à la Manche. Au début, il avait trouvé cela bizarre, ce jeune beurre handicapé qui partait courir chaque matin sur le sentier de randonnée, avec une jambe musclée et une autre qui se terminait par un pied en carbone vissé dans une basket. Maintenant, il éprouvait une vraie tendresse pour ce garçon. Lorsqu'il n'avait pas encore 30 ans, à l'âge de Jamal, André se tapait plus de 100 km à vélo chaque dimanche matin. Ipor, ifto, ipor. Sans personne pour lui prendre la tête pendant 3 heures. Alors, que le gamin de Paris et sa patte folle aient envie de suer dans les valeuses dès les premières lueurs, au fond, il comprenait. L'ombre furtive de Jamal réapparut à l'angle de l'escalier qui montait vers les falaises pour disparaître aussitôt derrière les conteneurs poubelles du casino. Le patron de la sirène avança d'un pas et alluma une Winston. Il n'était pas le seul y portait, debout à braver le froid. Deux silhouettes se détachaient au loin sur le sable mouillé. Une vieille dame tenait au bout d'une laisse interminable un petit chien ridicule, genre modèle qui fonctionnerait avec une télécommande et des piles, prétentieux au point d'insulter les mouettes à coups de jappements hystériques. 200 mètres plus loin, un type assez grand, les mains enfoncées dans un blouson de cuir marron fatigué, restait planté devant la mer, narguant les vagues du regard comme s'il avait une revanche à prendre sur l'horizon. André cracha son mégot et rentra dans l'hôtel. Il ne tenait pas à ce qu'on le croise ainsi, mal rasé, mal habillé, cheveux fous, dans cette allure d'homme préhistorique sortant de sa grotte que Madame Cro-Magnon aurait quittée depuis des lunes. Jamal Salaoui grimpait avec une régularité de métronome la plus haute falaise d'Europe. 120 mètres. Une fois dépassées les dernières villas, la route se réduisait à un sentier de randonnée. Le panorama s'ouvrait jusqu'à Étretat, 10 kilomètres plus loin. Jamal aperçut les deux silhouettes se découper au bout de la plage. La vieille au petit chien et le type face au large. 3 mouettes, peut-être effrayées par les cris perçants du caniche, surgirent de la falaise et lui coupèrent la priorité avant de s'envoler une dizaine de mètres au-dessus de lui. La première chose que Jamal vit, un peu après le panneau indiquant le camping Le Rivage, fut l'écharpe rouge. Elle était accrochée à la clôture du champ, comme pour signaler un danger. Ce fut la première réflexion de Jamal. Un danger. Le signalement d'un éboulement, d'une inondation, d'un animal mort. Puis l'idée passa aussitôt. Ce n'était qu'une écharpe accrochée à un fil barbelé, perdu par un promeneur et emporté par le vent du large. Il hésita à rompre le rythme de sa course, à tordre son cou pour observer ce bout de tissu qui pendait. Il s'en fallut même de peu qu'il ne continue droit devant. Tout aurait été si différent alors. Tout aurait basculé autrement. Mais Jamal ralentit sa course, puis s'arrêta. L'écharpe semblait neuve. Elle brillait d'un rouge vif. Jamal la toucha, détailla l'étiquette. Du cachemire, une Burberry. Ce bout de tissu valait une petite fortune. Jamal, en décrochant avec délicatesse l'écharpe de la clôture, se fit la réflexion qu'il la rapporterait à la sirène tout à l'heure. André Josviac connaissait tout le monde à Ipor. Il saurait si quelqu'un l'avait perdue. Sinon, Jamal la garderait. Il caressa l'étoffe tout en continuant de courir. Une fois rentré chez lui à la cité des 4000, pas sûr qu'il la porte par-dessus son jogging. Du cachemire à 500 euros, ce serait un coup à se faire décapiter. Mais il trouverait bien dans son quartier une fille mignonne qui accepterait de l'enrouler autour de son cou. Près du blocos, sur sa droite, une dizaine de moutons tournèrent la tête vers lui. Ils attendaient que l'herbe dégèle avec le même regard lobotomisé que les cons à son boulot le midi, devant le micro-ondes.